Alors, bienvenue dans le cours en esprit et en vérité. Pour se situer, on est dimanche le 28 avril et ce matin, nous allons couvrir la leçon 6. Et puis, est-ce qu'on a un micro de disponible s'il y a des questions, David? Juste pour l'enregistrement, pour qu'on puisse entendre. Merci. Alors, simplement un petit récapitulatif. Où est-ce qu'on était dans la dernière leçon? On était en train de compléter le livre des Actes. Et puis, donc, je vais très rapidement, là, 5 minutes, on va terminer le livre des Actes. Puis, on rentre dans une nouvelle section complètement ce matin. Alors, le livre des Actes, une des questions qu'on était en train d'aborder, c'est à quoi ressemblait un service? À quoi ressemblait le temps que l'Église prenait ensemble? On a une seule fois dans tout le livre des Actes, il y a l'expression « servir le Seigneur » qui est associée comme à un temps spirituel. C'est lorsque ils sont ensemble, ils sont en train de servir le Seigneur, puis le Saint-Esprit va dire au pasteur de l'Église d'Antioche de mettre à part Paul et Barnabas. D'accord? C'est la seule fois où l'expression « servir le Seigneur » est associée comme un temps religieux, si je peux dire, un temps spirituel. Le reste du temps, servir le Seigneur, c'est concrètement passer à l'action, servir des gens. Oui, Camille.
Lorsqu'on parle de servir des idoles, est-ce que ça, c'est plus clair que c'était dans un service religieux avec... on entend souvent ça, servir des idoles dans...
Dans Actes?
Non, dans...
OK. Oui, définitivement. Mais ce que je mentionne, c'est que la notion de, dans tout le livre des Actes, servir le Seigneur est associé une seule fois à une activité spirituelle comme nous on le concevrait, un culte, on va dire comme ça, là. Donc, généralement, servir le Seigneur dans le livre des Actes, c'est servir des gens, c'est prendre soin des personnes. Mais les chrétiens se rassemblaient. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Parce qu'on est en train d'essayer de comprendre c'est quoi l'adoration dans le Nouveau Testament. Puis dans le livre des Actes, l'adoration lui-même, on pourrait l'associer à l'expression, mettons, servir Dieu, servir le Seigneur, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament. Oui, il y avait des païens qui servaient des idoles, puis les Juifs servaient l'Éternel. La seule fois où c'est associé dans le livre des Actes, servir le Seigneur, à ce que nous, on définirait comme un culte, un service, une célébration, ça arrive juste une fois. C'est lorsque Paul puis Barnabas sont mis à part. Le reste du temps, servir le Seigneur, c'est des choses beaucoup plus concrètes. Servir les gens, prendre soin des gens. C'est intéressant juste de remarquer ça. Donc, où je m'en vais avec ça, c'est que on a déjà commencé à le voir avec les Évangiles. On le voit dans Actes, puis on va le voir encore plus dans la lettre aux Romains ou dans la théologie que Paul a de l'adoration pour un chrétien. Dans le Nouveau Testament, adorer Dieu, c'est quelque chose qui se passe à tous les jours. C'est pas quelque chose qui se passe fondamentalement le dimanche matin, admettons. On se réunit pour célébrer l'Éternel, pour adorer Dieu, c'est vrai, mais les chrétiens font ça tout le temps. Ils font ça toujours. Ils font pas ça seulement lorsqu'ils sont en train de verbaliser qu'ils adorent Dieu. Ils le font à travers un service pour Dieu aussi, même lorsqu'ils sont en train de prendre soin de quelqu'un, des choses aussi bêtes que faire mon quotidien, quand je le fais comme pour le Seigneur, je suis en train d'offrir un culte. On va le voir ensemble dans Romains. Donc, c'était quoi la nature des rassemblements chrétiens? On avait commencé à voir ça il y a 2 semaines. L'enseignement était au centre du rassemblement des chrétiens. L'enseignement de la parole était au centre. Puis j'avais mentionné, si vous faites une recherche sur Internet, pour des vieilles églises protestantes, les premières églises protestantes en Europe, les protestants francophones appelaient ça des temples, donc un temple protestant. Puis si vous faites une recherche, vous allez voir, souvent la disposition des chaises est complètement circulaire. Puis au centre, c'est comme l'estrade est au centre, c'est l'endroit où on allait prêcher la parole. Puis c'est pas parce que le pasteur est au centre de l'église, c'est parce que la parole de Dieu est au centre de l'église. C'est comme l'acte le plus concret. C'était ça, c'était prêcher la parole. Bien, on trouve ça dans le livre des Actes. Lorsqu'ils se rassemblent, il y a une grande place qui est accordée à l'enseignement. On va étudier les enseignements des apôtres. Un autre élément qui est très, très fort dans le livre des Actes, c'est la notion de communion. Ça, c'est quelque chose qui est... On pourrait dire que c'est présent dans l'Ancien Testament, dans le sens que le peuple de Dieu doit prendre soin les uns des autres, mais une communion, une intimité, c'est pas quelque chose qui est présent comme ça va être développé dans le Nouveau Testament. Et donc, dans le livre des Actes, à travers tout le Nouveau Testament, il va y avoir l'idée de, que les chrétiens sont en communion avec le Seigneur, on est en relation avec lui, on est en communion avec l'Esprit-Saint, puis on est en communion les uns avec les autres. Alors, si vous pensez à Actes, vous pensez à, au tout début du récit du livre des Actes, acte 2, ils sont réunis ensemble dans les maisons, ils partagent le repas, il y a l'enseignement, ils prennent soin les uns des autres, ils prient les uns pour les autres. La communion fait comme partie intrinsèque de ce que c'est un culte dans le livre des Actes. On rentre en communion ensemble. On s'en vient prendre soin les uns des autres. Parce qu'on est en communion avec le Seigneur, on va être en communion les uns avec les autres. Puis ça va aller assez loin parce que cette communion, cette mise en commun, ils vont aller jusqu'à prendre soin littéralement, financièrement, les uns des autres. Puis ça n'a rien à voir avec une notion de, je fais juste une parenthèse, de communisme, d'accord? Ça n'a rien à voir. Le communisme, tu as un État qui, dans le fond, contrôle une propriété qui est commune à tout le monde. On ne voit pas ça dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes, volontairement, en toute liberté, je décide d'être généreux avec mes biens pour prendre soin d'un frère, d'une sœur. Pour prendre soin de l'Église, volontairement, librement. Je ne suis pas obligé de faire ça. Donc, ça n'a rien à voir avec le communisme. Mais poussé par l'Esprit, on est en communion ensemble, puis on prend soin les uns des autres. C'est comme si je choisis de voir mes biens comme étant au service du Seigneur. Et ça, c'est très, très fort dans les Actes. Donc, ça, Paul va le développer plus loin, mais on peut deviner déjà que c'est ce qu'on va définir comme l'adoration. Le service à Dieu se passe aussi par le fait qu'on prend soin les uns des autres. D'accord? On a déjà dit, on n'a plus le temple, on ne va pas au temple pour adorer. Au début des Actes, ils sont là, ils se réunissent, mais on n'a plus besoin d'aller là parce que Christ a tout accompli. Donc, ça veut dire quoi, adorer puis servir Dieu? Ça veut dire être en communion les uns avec les autres. Puis c'est intéressant... Si vous allez au bas de la page 5, si vous avez les notes de la leçon 5, là, je vais juste lire une petite citation au bas de la page 5. « Et lorsque l'on considère que dans l'Ancien Testament, Dieu accorde une grande importance aux soins apportés aux pauvres, à la veuve et à l'orphelin comme étant l'expression de la vraie religion, nous pouvons comprendre que les apôtres désirent souligner la manifestation de cette vraie religion chez les premiers chrétiens. » Donc, rappelez-vous, quand même que dans l'Ancien Testament, il y a une critique que Dieu fait sur son peuple à travers les prophètes. Puis il dit, « Vous avez reçu ma loi devait faire de vous un peuple super beau où ça aurait été agréable de vivre et d'être, et vous avez complètement passé à côté. Maintenant, un jour, mon esprit va habiter dans mon peuple, puis mon peuple va vivre la vraie religion, si je peux dire. » Et donc, il y a cet argument-là à travers le livre des Actes, que l'Église est en train de vivre ce qui est vrai. Ça fait quelques fois là, que je le mentionne dans les dernières semaines, mais pour bien comprendre le livre des Actes, il faut réaliser que l'Évangile de Luc est écrit par Luc, puis le livre des Actes est écrit par Luc, parce que un des thèmes principaux, c'est les œuvres de l'Esprit à travers ces deux livres-là. Puis le livre de Luc, un des arguments que l'Évangile de Luc fait, c'est que tout ce que Jésus fait, il ne le fait pas de lui-même, il le fait par la puissance de l'Esprit-Saint. C'est très, très, très présent à travers tout l'Évangile de Luc. Lorsque j'arrive dans Actes, l'argument que Luc veut faire, c'est que ce même Esprit-là qui habitait Christ, habite son Église, habite ses croyants maintenant. Puis ces croyants-là vont faire des œuvres plus grandes encore parce qu'ils vont se multiplier, ils vont aller faire des disciples. D'accord? Donc, c'est la vraie religion qu'on est en train de trouver. Si je prends encore l'argument, dans l'Ancien Testament, Dieu, à travers ses prophètes, fait une critique contre son peuple. Jésus vient, Jésus dit, « Je vais vous montrer c'est quoi un fils obéissant. Je vais l'être moi-même. » Il relie les mêmes textes de l'Ancien Testament, puis il les incarne de manière beaucoup plus fidèle, justement, à la pensée du Père. Puis là, lui, il monte au ciel. Qu'est-ce que l'Église va faire? L'Église va faire la même chose. D'accord? Habiter de l'Esprit-Saint. D'où l'importance de cette communion-là où dans l'Église, on prend soin les uns des autres. Dans l'Église, il n'y a plus, entre guillemets, de pauvres. parce que l'Église cherche à prendre soin. Ce qui n'est pas vrai, parce que ce n'est pas le communisme. D'accord? C'est pas le communisme où on met tout en commun puis tout le monde est égal. On ne voit pas ça non plus dans les actes. Mais généreusement, on va pourvoir, on va aider. Un autre élément qui est important dans le livre des actes, puis qui est même un des thèmes importants, je dirais, de la vie chrétienne, c'est la prière. Alors, dans le livre des actes, un des sous-thèmes qui est développé, c'est qu'il n'y a rien qui se passe sans la prière. Donc, la prière est présente à la Pentecôte, la prière est présente lorsque Paul et Barnabas sont mis à l'écart, sont mis à part, la prière est présente lorsqu'ils vont se prononcer au concile. Donc, la prière est toujours présente, la prière est là. Et donc, ça fait partie, la prière et la louange, ça fait partie des temps spirituels, je ne sais pas quel terme utiliser, des temps spirituels que l'Église prend ensemble. Parce que ce n'est pas des cultes, ce n'est pas comme nous on le définirait. Excusez. Est-ce que vous avez des questions sur le livre des actes avant qu'on passe à la théologie de Paul et de l'adoration? Ça va? OK. Paul parle très peu d'adoration. Paul utilise peu le langage de l'adoration. Lorsqu'on veut savoir c'est quoi des adorateurs, il en parle, on va aller voir ensemble. Spécialement dans Romains, mais il va rarement parler d'adorateur, d'adoration. On va comprendre c'est quoi pour lui un service d'adoration chez les chrétiens par d'autres mots qu'il va utiliser autour. Des mots qu'on a déjà associés avec l'adoration dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous vous rappelez c'est quoi les grands thèmes dans l'Ancien Testament liés à l'adoration? On les a répétés à plusieurs reprises depuis le début. L'adoration commence par... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle? Le Dieu qui se révèle, donc la révélation, d'accord? Le Dieu qui rachète, donc le Dieu qui va racheter, le Dieu qui va contracter une alliance avec son peuple. Puis ensuite de ça, le peuple va entrer au service de Dieu. En gros, là, quatre grands thèmes dans l'Ancien Testament. Quand on arrive dans la théologie de Paul, puis on veut comprendre pour Paul c'est quoi adorer, vous allez voir qu'il n'est pas très, très mystique, Paul, même s'il a vécu des expériences très spéciales dans la prière, avec des visions puis des choses comme ça. Lorsqu'on veut comprendre c'est quoi sa théologie de l'adoration, comment pour lui un chrétien doit adorer, bien, gardez en tête ces thèmes-là, puis on va voir ensemble des choses qu'il développe dans Romains. Puis on va voir qu'il y a une approche d'un culte d'adoration pour un chrétien qui est très, très, très terre-à-terre, Paul. C'est vraiment intéressant. Alors, si vous allez au haut de la page 2, sur les notes, si vous voulez des copies des notes, il y en a sur la petite table noire à l'entrée. Définition, le christianisme est une consécration totale qui implique l'appartenance à Dieu, l'obéissance, l'amour fraternel, en somme, le service et l'adoration sans restriction du Dieu vivant et vrai. Définition de ce que c'est l'adoration pour un chrétien. Donc, pour Paul, le langage de l'adoration, à ma connaissance, il n'est jamais associé avec un service chrétien, comme une célébration. Paul ne l'associe pas à ça. Il va, un culte d'adoration, il va en parler, il va dire, on peut offrir un sacrifice. Il y a un passage qui vous vient à l'esprit, c'est lié à l'adoration. À ma connaissance, là, à mon souvenir, là, il n'y a aucun passage. S'il y en a un qui vous vient, levez la main et dites-le moi, là, mais il n'y a aucun passage dans toutes les écrits de Paul où Paul associe l'adoration explicitement avec un rassemblement du dimanche. C'est comme si pour lui, ça fait partie. Paul était constamment dans des rassemblements de chrétiens, constamment en train d'enseigner, mais dans son langage d'adoration, ce n'est pas associé à ça. Et donc, ça dit à quel point pour nous, ça ne devrait pas être ça non plus. D'accord? On devrait voir le dimanche comme juste un des aspects de notre service d'adoration à Dieu, mais vraiment juste un seul des aspects. Donc, Paul va développer un nouveau sens qui était déjà présent un peu dans l'Ancien Testament, mais que personne ne développe autant que ça dans le Nouveau Testament. Et puis, on va se servir de la lettre de Romains pour le voir ensemble. Si vous allez au milieu de la page 2, le sacrifice de Christ qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu est le fondement de la théologie de l'adoration de Paul. La manière dont Paul utilise le langage lié au culte annonce un changement en profondeur par rapport à la manière traditionnelle de concevoir le culte. Désormais, ce qui est saint au sens du culte, c'est la communauté du peuple saint et sa consécration au service du Seigneur, à qui appartiennent le monde et toute sa domination. Je répète ça la dernière phrase. Désormais, ce qui est saint au sens d'un culte, offrir un culte à Dieu, pour Paul, c'est la communauté du peuple saint et sa consécration au service du Seigneur, à qui appartient le monde et toute sa domination. Voici comment Paul décrit la conversion, si vous allez un petit peu plus bas. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc, c'est à peu près le plus près là, d'un culte traditionnel. Il va parler des païens, il va dire, oui, vous aviez des cultes traditionnels, vous serviez des idoles, vous adoriez des faux dieux, puis vous avez abandonné cela pour venir maintenant servir le Dieu vivant et vrai. Vous avez quitté le service des idoles pour venir au service du Dieu vivant et vrai. Puis cette notion-là de service va être centrale à la vision que Paul a de l'adoration. Pour attendre des cieux son Fils qui l'a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Abandon des idoles pour servir Dieu. On va à la prochaine page. Servir Dieu signifie accomplir sa volonté. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 7, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Donc, Dieu est en train de nous transformer. « C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Servir Dieu signifie faire sa volonté. Avoir une différente manière de penser, voir les choses autrement, agir autrement. Ici, le christianisme est appelé à se distinguer des autres cultes, non par ses rituels, autant que par un style de vie différent et une éthique de vie consacrée. On pourrait dire que le Seigneur ou le Nouveau Testament nous donne deux rituels. Ce serait lesquels? Si on veut utiliser le mot rituel. Le baptême, le repas du Seigneur. C'est tout ce qu'on a. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben oui, on prie, on va s'entretenir par des psaumes, par des cantiques, on va chanter, on va enseigner, on va étudier l'enseignement des apôtres ensemble. Mais des rituels, là, tout ce qu'on a, c'est le repas du Seigneur puis le baptême. Des sacrements, c'est tout ce qu'on a. Et donc, pour Paul, ce qui distingue le service des chrétiens envers Dieu, c'est qu'il n'y a pas un ensemble de rituels où on va à un autel puis on va adorer des idoles. Il n'y a pas les rituels de l'Ancien Testament. D'accord? Et c'est pour ça que les protestants se sont énormément détachés de la célébration de l'Église catholique romaine. Parce que l'Église catholique romaine a réinstitué un paquet de rituels. Puis ces gestes-là que tu poses deviennent comme puissants en eux-mêmes. Tu fais ça, il se passe ça, il y a de l'encens, tu sens l'odeur, un paquet de choses, là, tu es comme, là, je suis en train d'adorer. Mais ça, c'est comme, ça dénature l'adoration selon Paul. C'est pas que c'est mal d'avoir de l'encens ou d'avoir des atmosphères avec la lumière, mais l'être humain est sensible à des trucs, ça nous prend certaines choses, puis là, on rentre dans des rituels, puis on le fait, là, je veux dire, je ne sais pas, moi, si vous faites un culte personnel, si vous prenez un temps de méditation quotidienne, vous le faites au même endroit à la même heure. Si vous êtes régulier, vous faites ça à peu près au même endroit à la même heure. Votre verre d'eau est à la même place, votre crayon est à la même place. Vous comprenez? On est des bébites de rituel, là. Puis moi, je rentre plus vite, je me concentre plus rapidement dans mon temps de prière si je suis mon petit rituel. D'accord? Donc, on est des bébites de rituel. Mais ça fait pas partie de l'adoration. C'est juste comme mon rituel qui m'aide à me concentrer, c'est tout. Ouais, c'est ma discipline qui m'aide à être là, c'est tout. Mais ça fait pas partie de mon adoration parce qu'il n'y a pratiquement pas de rituel dans le Nouveau Testament. L'adoration et le sacrifice de Christ. Bien avant Romains 12:1, on va aller à Romains 12:1, ce ne sera pas très long, où Paul dira aux chrétiens de rendre un culte raisonnable en offrant leur corps comme un sacrifice vivant, l'apôtre a déjà commencé à développer le thème de l'adoration. Il le développe en faisant dans Romains 1, dans le fond, il développe toute une théologie, c'est super éclairant, de cette adoration qu'on devrait donner à Dieu juste en sachant que Dieu existe, mais qui en réalité, on a rejeté Dieu, puis on a décidé d'adorer sa créature ou ses créatures. D'accord? C'est comme si Paul nous donne une espèce de fondement de l'idolâtrie. Il nous aide à comprendre c'est quoi l'idolâtrie. On refuse d'attribuer à Dieu les honneurs qui lui reviennent, puis on se tourne vers ses créatures, que ce soit des êtres humains, que ce soit des animaux, que ce soit dans la nature. On s'en va vers sa création, puis on va décider comme de la déifier, puis de se confier, on va se mettre à l'adorer. Puis par le fait même, on va la dénaturer. Par le fait même, il va y avoir un paquet de choses qui vont devenir contre nature même, dans la sexualité, par exemple, d'accord? Mais donc, Paul nous explique déjà qu'on est des adorateurs. Dans un sens, c'est vrai de dire, à partir de Romains 1, que Paul parle de l'adoration, puis il nous dit, tous les êtres humains sont des adorateurs. On est tous des adorateurs. Maintenant, soit que j'adore Dieu, soit que j'adore des idoles. Soit que je sers Dieu, soit que je sers des idoles. Avant d'être chrétien, je servais des idoles. Des fois, j'ai des échos. Des fois, ils me rappellent. Il faut que je renonce à ça. Je sers Dieu. Romains 1, 18 à 21. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, contre toute et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, intuitivement au moins ils ont connu qu'il y avait un Créateur. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est en rejetant la connaissance de Dieu qu'on s'en va créer des idoles. Et donc, on trouve un des thèmes qu'on avait dans l'Ancien Testament, le Dieu qui se révèle. Les chrétiens, les juifs, on adore le Dieu qui se fait connaître à nous. Paul reprend un de ces thèmes-là, puis il dit « Ce Dieu-là se fait connaître à tous les êtres humains sur la terre. » Donc, tous les êtres humains ont à leur portée une connaissance suffisante pour qu'ils disent « Il y a un Créateur plus grand que l'hippopotame que je veux adorer. » Il y a un Créateur plus grand que, je ne sais pas moi, la vache sacrée, admettons, que je veux adorer. D'accord? Il y a un Créateur qui est au-dessus de ça. C'est un des thèmes de l'Ancien Testament. C'est le Dieu qui se révèle. Paul dit, Dieu s'est révélé à travers la nature, à tous les êtres humains, puis on devrait à ce moment-là partir à sa recherche, crier pour chercher Dieu. Puis ça arrive qu'on annonce l'Évangile à des gens, puis les gens nous disent, c'est ça que je cherchais. Je vous dis, là, dans les dernières années, ça m'arrive à chaque année. Une des personnes que j'ai soit le plaisir de conduire au Seigneur ou juste d'annoncer l'Évangile, puis après ça, ça dépend toujours de la réponse à l'Évangile, mais des gens me disent littéralement, ça fait des années que je cherche ça. Parce qu'ils cherchent Dieu, puis ils ont erré, ils sont allés dans toutes sortes de religions, ils ont cogné à toutes sortes de portes, puis non, ils n'ont pas trouvé. Puis là, ils entendent l'Évangile, puis oh! C'est ça que je cherchais. Le thème de la révélation. Donc, Dieu se fait connaître à tous les hommes à travers la nature. Et la réponse qu'on doit donner, c'est qu'on doit glorifier Dieu. On doit reconnaître qui il est et ne pas le dénaturer. Ensuite de ça, ce que Paul va développer, c'est le thème de la réconciliation. Si vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, révélation, rédemption, Dieu rachète son peuple, alliance, d'accord? Donc, on a des thèmes qui sont communs. La révélation, Dieu s'est fait connaître à tous les hommes, Dieu s'est fait connaître aux Juifs. Tous sont pécheurs. Ça prend la réconciliation, ça prend la rédemption. Je suis au troisième paragraphe de la page 4. Par le sacrifice de Jésus-Christ, tout homme a désormais la possibilité d'être réconcilié avec Dieu et d'entrer en relation avec lui. Et ceci le conduira à offrir à Dieu l'adoration qui lui plaît. Donc, c'est le deuxième thème, c'est le thème de rédemption. Dans Romains 3, 24, c'est explicitement dit, c'est à travers la rédemption. Christ devient lui-même le sacrifice parfait qui nous permettra de devenir des adorateurs. Donc, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël est esclave en Égypte. Ce n'est pas un peuple fidèle, c'est un peuple qui a adopté plein de pratiques des Égyptiens. Il a fallu, lorsqu'ils ont fait alliance avec l'Éternel, qu'ils renoncent au culte. Ils étaient devenus syncrétistes, d'accord? Ils avaient intégré des cultes des Égyptiens au Dieu de leur père. Puis lorsque Dieu les rachète, il va faire d'eux un peuple. Et il a fallu qu'il les sauve pour faire ça. Et ensuite de ça, ils vont pouvoir entrer à son service. Donc c'est le même thème qu'on trouve ici. Ce rachat-là est fait à travers la personne de Christ. Et ça, ça va rendre possible maintenant notre service d'adoration à nous. Quelle forme est-ce qu'il va prendre? Romains 12.1. Romains 12.1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait nous lire Romains 12.1? Bien fort. Je vais le lire. Ça va. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » On a l'essentiel de ce que c'est un culte d'adoration pour Paul dans cette phrase-là. Dieu s'est fait connaître à toi, Dieu t'a racheté. Maintenant, tout ce que tu es comme personne, tu vas le placer à son service. Ça va être un sacrifice de reconnaissance. Ça va être une réponse raisonnable à ce que Christ a fait pour toi. Tu es rendu apte maintenant à le servir. Tout ce que tu es lui appartient. Ça va être maintenant un culte raisonnable. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Fait que je vous pose une question. À la lumière de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans le cours, quand vous pensez généralement au terme « adoration », est-ce qu'il vous vient à l'esprit « je me ferme les yeux puis je me mets à chanter des louanges à Dieu » ce qui est tout à fait biblique, c'est de l'adoration. Ou est-ce que lorsque vous pensez à l'adoration, vous dites « ah, c'est mon service chrétien, pas dans un ministère, là, mon service chrétien de tous les jours. Quand je suis à la maison, puis je vide le lave-vaisselle, puis je le fais comme pour le Seigneur. Quand je suis à la maison, puis j'accueille la famille avec un sourire, comme pour le Seigneur. Quand je rentre au travail, puis j'ai une bonne attitude, puis je vis avec ça, comme pour le Seigneur. Avec tout le reste, mon temps quand je lis les Écritures, quand je suis dans la prière, quand on est en train de chanter des louanges. » Comment vous pensez, quand vous pensez à l'adoration, vous pensez à quoi? Pensez à un service, une célébration du dimanche matin où on chante des louanges, ou pensez à un temps de prière. On a adoré le Seigneur ensemble. C'est vrai. C'est pas que c'est faux. Mais si c'est à ça que ça se résume dans mon esprit, je suis vraiment, vraiment, vraiment loin du Nouveau Testament. C'est pas ça la synthèse de l'adoration. Fait que cette semaine, si toutes les responsabilités que vous aviez, si vous les avez assumées avec joie, comme pour le Seigneur, vous étiez en train d'adorer. C'est ça que vous étiez en train de faire. Vous étiez en train d'offrir un sacrifice raisonnable. Puis quand il y a eu des choses dérangeantes dans votre horaire, tu arrives dans la cuisine, c'est pas ramassé. Tu viens pour démarrer la voiture, bon, OK, la personne qui l'a pris avant n'a pas fait le plein d'essence. Ton gars vient de rentrer dans la maison avec ses bottes pleines de boîtes, puis là, il est parti travailler, tu sais. Ça se passe jamais chez nous. Vous comprenez? Tout ça. Hop, tu t'en es couché, t'es fatigué, il faut que tu te lèves tôt le lendemain, là, ton épouse, ton époux, ton fils, il y a un téléphone, n'importe quoi. Un dérangement dans ton horaire, puis tu fais passer la personne avant suivre ton horaire. Hey, moi, là, le Seigneur, il sait tellement que je l'aime quand je fais ça. Quand je fais passer les gens avant mes objectifs, là, Jésus, il sait que je l'aime. Je suis en train de le servir, je vous le dis. Parce que moi, les objectifs, c'est important dans ma vie. Mais chaque fois que je fais ça, je suis en train d'adorer Dieu. Oui, Camille. Exactement.
Est-ce que je peux le faire?
Oui.
Mm.
Oui, c'est quand que c'est fait. Bien, c'est un petit peu ça comme pour le Seigneur. Quand j'arrive à avoir la disposition de cœur où je le fais comme pour le Seigneur, ça veut dire que je le fais avec joie. Je le fais pour toi, Jésus. Ça me fait plaisir. C'est pas Jésus, t'as pas ramassé ta vaisselle? OK. Non, mais Joe Blow, il n'a pas ramassé sa vaisselle. Je le fais pour toi, Seigneur. Comme pour le Seigneur. Puis là, j'arrive à avoir la bonne attitude où je suis en train d'adorer. Mais ça, c'est notre culte d'adoration, là. À la fin du cours, on devrait avoir fait un petit bout de progrès dans notre compréhension de ça, puis pas revenir dans 2 mois puis dire « Ah, ben oui, moi j'adore le Seigneur le dimanche lorsque je chante des chants, puis je connais des chrétiens qui, eux, quand ils vont dans la prière, ils vivent des expériences mystiques. Ah, ça, eux autres, c'est des adorateurs, ce qui décolle. Cherchez ça dans le Nouveau Testament, je vous le dis, ça va être difficile, là. Ça va être très, très, très difficile de trouver ça dans le Nouveau Testament. On a quand même cette espèce de culture-là, tu sais. Il y a des églises évangéliques. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs ici qui ont eu cette pensée-là, ou vous entendez ça, ou vous-même vous l'entretenez. Il y a des églises qui savent vraiment adorer, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça, il y a des églises qui savent vraiment adorer? Tu veux dire la musique est haute, puis les gens décollent? C'est quoi que tu veux dire par « il y a des églises qui savent vraiment adorer »? Non, mais eux autres, ils adorent de tout leur cœur, tu sais, parce qu'ils bougent plus, ils chantent plus fort, puis ça soigne. C'est quoi que tu veux dire? Parce que c'est correct, là. Je vous l'ai dit, dans l'Ancien Testament, ça bougeait là, quand ils chantaient, là. Fait que si tu as le goût de bouger, c'est bien correct. C'est pas qu'on est supposé être tous de même, parce qu'autrement, tu sais, c'est faux. C'est pas ça. Mais il y a des églises qui savent vraiment adorer. De quoi tu parles? Une église qui est en train de servir Dieu au quotidien, qui a le cœur connecté sur le Seigneur pour dire, « Seigneur, montre-moi c'est quoi que j'ai à faire pour toi aujourd'hui. Montre-moi comment je vais te servir aujourd'hui, Seigneur, je vais le faire de bon cœur. » Ça, c'est une église qui sait adorer. Est-ce que ça fait du sens? Oui, Betty. Oui. Le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, dans le sens que ça résume toute la loi. Fait qu'on pourrait le résumer comme ça.
Adorer Dieu, ça veut dire aimer les autres de la façon que Dieu veut qu'on les aime.
Oui, aimer Dieu puis aimer les autres de la façon que Dieu veut qu'on les aime. Ça résume toute la loi. Fait que dans le fond, si je fais le comparable avec l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, j'ai un peuple d'Israël qui connaît un peu Dieu, mais pas grand-chose. Il faut même que Moïse dise... Avec quel nom je te présente, au juste? T'sais, fait qu'ils ne connaissent pas beaucoup, là. Fait que, mais c'est les descendants d'Abraham. Fait que Dieu les amène à l'écart, il les rachète, puis là, il leur dit, je vais vous expliquer maintenant comment vous allez être des adorateurs. Je vous donne ma loi. Fait que, il y a des éléments qui étaient liés au temple, pour le pardon des péchés, tout ça. Puis tout le reste, c'était la vie éthique du peuple de Dieu. Les lois, c'était ça, c'était l'éthique. Puis cette éthique-là, elle visait à dire... Voici comment vous allez me servir. Voici une nation qui me sert. Ça a de l'air de ça. Puis là, Dieu envoie ses prophètes, puis il fait la critique. Vous n'êtes pas des vrais adorateurs. C'est faux. Tout ce que vous faites, c'est que vous allez à l'église le dimanche. Vous allez au temple, je m'excuse. Vous allez au temple. Puis là, vous faites tous vos sacrifices, vous broyez la cendre, tout le kit. Tu sais, c'est intense, la patente. Mais ça ne me plaît pas, ça. C'est pas ça que je veux. Là, j'arrive dans le Nouveau Testament. Puis là, le Seigneur va résumer toute la loi qui avait dit à Israël comment être des serviteurs, des adorateurs de Dieu à 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, concrètement, ça va se traduire de mille et une manières. Fait que oui, on peut le résumer à ça. Puis je garde la bonne disposition de cœur quand je suis en train de le faire comme pour le Seigneur. J'aime mon prochain comme moi-même. Oui, Wemba. Oui.
Est-ce que c'est des synonymes ou comment est-ce que servir Dieu et adorer Dieu?
C'est une bonne question. Dans le fond, c'est un élément... Alors, la réponse est oui, ce sont des synonymes. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est une des choses qu'on a vues là, dans les premières leçons, c'est qu'une particularité du peuple d'Israël par rapport aux autres idoles, c'est que le peuple d'Israël se voyait comme des serviteurs, mais au sens le plus entier du terme, comme des esclaves de Dieu. Ils ont été rachetés, ils appartiennent à Dieu maintenant et ils servent Dieu. Et le thème de service à Dieu est intimement relié avec le culte à Dieu dans l'Ancien Testament. Donc, ça revient à des synonymes, d'accord? L'adoration se traduit par des paroles, par une disposition de cœur, mais par un service envers Dieu. Service envers Dieu qui comprend des paroles, une disposition de cœur, puis des actions. Puis qui va se traduire comment? Par des actions envers des gens, concrètement. Est-ce que ça répond à ta question? Alors, dans l'Ancien Testament, le lien est très, très clair. Puis quand on arrive dans le Nouveau Testament, il est encore plus évident. D'accord? Parce que là, dans le fond, ce que Paul fait dans Romains, c'est qu'il dit, bien, tout ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament en allant au temple, puis en offrant des sacrifices, ça ne peut rien de faire ça. Jésus a tout accompli. Fait que ce qu'il vous reste à faire, c'est oublier le temple. Le temple, c'est ton corps qui va servir à faire quoi? Une autre forme de service. Tu vas te servir de ton corps pour servir. Fait que c'est un autre des thèmes que Paul développe. C'est cette idée que notre corps devient le temple. Fait que si on fait le lien avec l'Ancien Testament, j'ai le temple dans l'Ancien Testament. Quand on arrive dans les Évangiles, Jésus va nous apprendre qu'il est lui-même le temple, c'est-à-dire qu'il est l'endroit où on va rencontrer Dieu, c'est à la personne de Christ. Maintenant, quand lui monte au ciel, puis nous envoie son esprit, bien nous, on devient le temple. Puis ça va être utilisé aussi dans Pierre, par exemple, comme l'Église elle-même, l'ensemble des croyants forment un édifice, une maison de Dieu où Dieu est glorifié. D'accord? Donc, il y a une évolution, si on peut dire, du concept de ce lieu d'adoration. Puis ce que ça donne, c'est que Paul est en train de dire tous les rituels qui étaient reliés au temple, ça ne sert plus à rien. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend le repas du Seigneur ensemble, on se rappelle qu'on n'a plus besoin du temple. C'est à ça que ça sert, le repas du Seigneur, dans un sens. Quand on prend le repas du Seigneur, on fait quoi? On se rappelle du sacrifice de Christ, on se rappelle que tout est accompli, on se rappelle qu'on n'a plus besoin du temple pour adorer. Maintenant, mon corps est devenu le temple du Saint-Esprit, puis je suis à son service. Alors, définitivement, quand on se réunit le dimanche matin, on enseigne la parole de Dieu, on prie ensemble, on chante des louanges, nous sommes en train d'adorer. C'est clair. Mais malheureusement, on a tendance à voir ça fondamentalement comme de l'adoration. Après ça, on va ajouter, je suis impliqué dans un ministère dans l'Église. Ça fait partie de mon service chrétien. Je suis impliqué dans un ministère dans l'Église. J'ai le goût de vous dire, si c'est comme ça que vous pensez au quotidien, bien, c'est comme si vous ne prenez pas assez de crédit. Parce que quand tu es en train de faire un repas pour la famille, quand tu es en train, tu es préposé au bénéficiaire, puis le bénéficiaire, il est ingrat, il est pas agréable, puis tu l'aimes quand même. Mais tu es en train de servir le Seigneur. C'est ton service chrétien de faire ça. Parce que tu es chrétien. Fait que tout ce que tu fais, si tu le fais pour le Seigneur, c'est ton service chrétien. Fait que tu as beaucoup plus de ministère que tu penses. Pas juste comme un ministère qui est dans un répertoire dans le bottin de l'Église, là. D'accord? Tantôt, je parlais à Mathieu, puis il me dit, il y a un couple. Il y a un couple de l'Église qui arrive à l'hôpital, puis il tombe sur Mathieu. Mathieu travaille à l'hôpital. Puis là, le monsieur, il me disait, c'est la première fois que je vois un médecin qui s'assoit sur le lit à côté de sa patiente puis qui commence à y jaser. J'ai jamais vu ça. Parce que Mathieu s'est assis à côté de la dame. Bien, il est en train de servir, il est en train de faire son service chrétien. Et pas parce qu'il est médecin, comme c'est une carrière plus noble. T'es concierge. T'es en train de faire ça, t'es en train de faire ton service. Si tu le fais comme pour le Seigneur, c'est aussi noble. Tous les gestes qu'on fait. C'est un morceau que certaines communautés religieuses catholiques saisissaient quand même mieux que ce que nous on saisit souvent. Quand vous étudiez plusieurs des communautés religieuses, ils avaient cette notion que tous les gestes du quotidien qu'ils étaient en train de faire étaient un geste d'adoration. Ils avaient saisi cette idée-là, que chaque petit geste, surtout lorsqu'ils sont en train, en plus de ça, d'aider quelqu'un d'autre, prendre soin de quelqu'un d'autre, ils sont en train de servir le Seigneur. Des ministères, là, vous en avez des centaines de ministères. Tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être dans un ministère à l'Église pour que ce soit un ministère. Ça va? Puis, on ne trouve pas vraiment chez Paul de dimension mystique à l'adoration. Il n'y a pas d'emphase sur ça. Lui a eu des expériences mystiques, mais il n'y a pas de grands emphases sur des expériences mystiques pour Paul. Fait que, associer dans notre esprit l'adoration à une expérience que tu vis avec Dieu, je pense que c'est vraiment déplacé, c'est vraiment une mauvaise théologie, dans le sens que on vit des expériences avec Dieu. C'est une œuvre que l'Esprit-Saint fait en nous. Quand ça vient de Dieu, c'est une œuvre que l'Esprit-Saint fait en nous. Fait que des fois, tu es en train de lire ta Bible, tu es en train d'aider quelqu'un, puis la personne a dit quelque chose, puis boum, le Seigneur vient de t'éclairer. Puis là, dimanche dernier, j'ai fait une rencontre où deux amis essayaient de m'aider à comprendre quelque chose que je fais aux gens. On savait qu'il y avait de quoi qui n'allait pas, puis là, on cherchait ensemble. Fait que le gars sur la table d'opération, c'était Yannick, puis il était en train de me décortiquer. Puis on faisait ça ensemble, on dit, OK, on essaie de comprendre. Puis là, on est, bang, il y a quelqu'un qui a cliqué, commencé à écrire ça. Ça a été mind-blowing pour moi, là. C'est tellement éclairant, là. C'était une œuvre puissante pour moi de l'esprit dans ma vie, où il est en train de me montrer comme les ramifications de certains péchés dans ma vie, puis les conséquences pour d'autres personnes. À ce moment-là, là, j'ai été transformé. C'est pas compliqué. Dans les heures qui ont suivi, j'étais pas la même personne. Puis depuis ce moment-là, les gens qui sont proches, là, puis qui sont attentifs, ils disent « Ah, il y a quelque chose qui change, Yannick. » Oui, j'ai vécu une expérience avec le Seigneur. Le Saint-Esprit m'a éclairé, puis est en train de me faire grandir. Mais ça, c'est pas plus de l'adoration, puis c'est pas plus « wow » que lorsque je suis en train de passer le balai pour ramasser la boîte qui traîne par terre chez nous. Comprenez? Ça, c'est de l'adoration. Fait qu'on mélange des trucs. C'est-tu clair? Est-ce que vous me suivez? Oui? On mélange des trucs. L'adoration, c'est simple, ça se fait à tous les moments du jour. Oui, je peux vivre des choses, des expériences très puissantes avec l'Esprit-Saint. Mais lorsqu'on mélange les deux, ça fait qu'on va essayer de concocter des églises où on va chercher à produire ces expériences-là, parce que c'est ça l'adoration. Pas dans la Bible, en tout cas, je suis désolé. Peut-être dans des sectes mystiques, mais pas dans la Bible. C'est pas dans la Bible. Est-ce que vous avez des questions sur ça, des commentaires? Ça va? On achève cette leçon-là. Au bas de la page 4, « Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. » Ça veut dire que j'offre tout ce que je suis comme personne pour la gloire de Dieu. Mes pensées, mon corps, mon temps, mon énergie, mes possessions. Un tout petit peu plus haut, j'ai écrit « Suivant ce passage, le culte intelligent d'un chrétien est d'offrir son corps, soit sa vie entière, au service de Dieu. Il ne s'agit pas que d'une offrande du cœur, une offrande d'intention ou intérieure, mais elle dépassera l'offrande que l'on peut offrir dans un moment de recueillement pour se traduire dans les gestes et les actions que nous ferons avec notre corps. » Donc, quand je fais mes... moi, je me lève le matin quand il n'y a personne qui bouge dans la maison, puis j'ai mes dévotions matinales. J'ai déjà commencé à servir le Seigneur avant. Quand je me réveille, je vous l'ai dit, généralement, quand je me réveille, je vais passer 5, 7, 8 minutes dans le lit à revoir l'Évangile dans mon cœur. Puis moi, j'ai besoin de ça. Je me réveille, puis en général, en 30 secondes, j'ai un peu d'anxiété qui s'en vient. Là, j'ai comme des affaires qui parlent. OK, Seigneur, on commence avec l'Évangile. Je suis en train de faire mon service d'adoration. Après ça, je m'en fais mes dévotions matinales. J'ai tous mes petits rituels à moi pour prendre mon temps avec Dieu. Mais je continue. Après ça, quand j'ai terminé, je suis en train de servir le Seigneur toute la journée. Je suis en train d'offrir un culte d'adoration au Seigneur. Et ce que Paul fait, dans le fond, dans la lettre aux Romains, à partir de Romains 12:1, il y a un « donc ». Il va dire, à la lumière de tout ce qu'on a vu, maintenant, offrez vos corps comme des sacrifices vivants pour servir le Seigneur. Puis là, il va aller faire des mises en application. Fait qu'il va dire, par exemple, tu rencontres quelqu'un qui ne mange pas de ça, puis toi, tu manges de ça. Tu t'en vas t'asseoir avec quelqu'un, puis dis, moi, je ne touche pas une goutte d'alcool. Dans ma famille, il y a eu des problèmes de boisson. Je ne touche pas une goutte d'alcool. Puis là, Paul va dire, bien, il est en train de le faire, c'est son service à Dieu. Il est en train de servir Dieu en ne buvant pas d'alcool. Toi, tu dis, bien, moi, quand je suis chez moi, puis qu'on est tranquille, on va servir une petite coupe de vin, je suis en train de servir le Seigneur. Dans ma conscience, je suis en paix, je suis en train de servir le Seigneur, parce que je le fais avec une bonne conscience. Fait que Paul va utiliser le langage du service pour le Seigneur, même, admettons, dans ça, dans les relations à l'intérieur de l'Église, où on va travailler à prendre soin des convictions de chacun puis respecter des convictions divergentes. Ça va être pour servir le Seigneur. Donc, au bas de la page 5, je fais une liste des choses qu'on voit par la suite dans Romains. L'édification mutuelle au sein du corps, la pratique de l'amour et du pardon, les bonnes attitudes envers les autorités civiles, l'attente du retour imminent de Jésus-Christ, l'amour pour les membres de l'Église qui ont des opinions divergentes. Ce sont tous des manières d'adorer Dieu pour Paul. Parce que c'est mon corps qui contribue à ça. C'est ma personne qui contribue à ça. Je suis en train d'adorer Dieu à travers toutes ces choses-là. Et puis, on termine avec un dernier élément. Paul va parler d'annoncer l'Évangile comme le service chrétien aussi. Alors, si vous allez au haut de la page 6, au début à la fin de sa lettre, Paul utilise le langage de l'adoration pour parler de son ministère à lui. Dans Romains 1:9, Paul parle du ministère de l'Évangile comme son service pour Dieu. Et si l'expression de service pourrait être comprise autrement qu'un acte d'adoration, dans Romains 15:16, alors il n'y a aucun doute, je vous les lis. « Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse ou de courage, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soit une offrande agréable étant sanctifiée par l'Esprit-Saint. » Avec le privilège de conduire quelqu'un à Christ, c'est le privilège d'offrir une offrande à Dieu. On est dans Romains. Cette personne-là se convertit, elle est rachetée. Okay? Elle a la révélation de la personne de Christ, elle devient chrétienne, elle est rachetée. Maintenant, elle va placer son corps au service de Dieu entièrement. C'est une nouvelle offrande qu'on a offert à Dieu. Quand j'ai le privilège d'annoncer l'Évangile, je suis en train de faire le ministère de l'Évangile. Puis quand j'ai le privilège de conduire quelqu'un au Seigneur, la personne se convertit, j'offre une offrande à Dieu. C'est ça que Paul est en train de dire à la fin de sa lettre. Il dit, « Afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. » Ils sont mis à part par le Saint-Esprit pour le service de Dieu. Ainsi, en annonçant l'Évangile et en conduisant des hommes, des âmes idolâtres, à se convertir à Jésus-Christ, l'apôtre Paul était lui-même en train d'adorer Dieu. C'est, je pense, John Piper qui l'a dit comme ça. Pourquoi est-ce qu'on fait de l'évangélisation? C'est parce qu'il n'y a pas assez d'adoration. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi est-ce qu'on fait de l'évangélisation? C'est parce qu'on veut plus d'adorateurs de Dieu. On va annoncer l'Évangile afin que les gens deviennent des adorateurs. C'est pour ça qu'on annonce l'Évangile. Il n'y aura plus d'évangélisation lorsqu'on va être avec le Seigneur, parce qu'il va juste avoir des adorateurs dans la présence de Dieu. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait de l'évangélisation? C'est pour servir l'adoration, pour conduire des gens à devenir des adorateurs de Dieu. Ainsi, en annonçant l'Évangile et en conduisant des âmes idolâtres, je l'ai lu, à la lumière de la lettre de Paul aux Romains, nous pourrions résumer ainsi l'adoration. L'adoration d'un chrétien pour Dieu se manifeste dans la consécration entière de sa vie quotidienne au service de Dieu. Cette vie qui est offerte comme un sacrifice à Dieu est rendue possible en vertu du sacrifice de Jésus-Christ uniquement lorsqu'il est saisi par la foi. Ainsi, celui qui place sa foi dans le sacrifice de Jésus se voit réconcilié avec Dieu et par le fait même, mis à part, sanctifié pour le service de Dieu par l'offrande de son quotidien à la gloire de Dieu. Alors, cette semaine, de grâce, adorez le Seigneur en le servant à chaque moment de la journée. Quand vous accueillez quelqu'un, quand vous saluez quelqu'un, quand vous dans votre travail, n'importe quand, prenez conscience que vous êtes en train de faire votre service chrétien. On va prier ensemble. Le Père éternel, merci pour ta parole. Seigneur, où est-ce qu'on trouverait des vérités aussi magnifiques que celles-là, Seigneur. Tu changes la banalité de mon quotidien. Tu prends la banalité de mon quotidien, Seigneur, puis tu lui donnes la plus grande et la plus belle des valeurs. Qu'est-ce qu'un être humain pourrait faire de plus grand que de te servir, Seigneur? Qu'est-ce qu'un être humain pourrait faire de plus noble que de te glorifier? Et tu me dis, Seigneur, dans ces enseignements de Paul, qu'à chaque moment, lorsque je suis en train de faire les choses, comme pour le Seigneur, je suis en train de t'adorer, je suis en train de te servir, Seigneur. Éternel, viens changer notre vision de l'adoration. Qu'on puisse être émerveillé au quotidien de pouvoir faire toutes sortes de petits gestes, de courtes prières, des paroles d'encouragement, des moments d'écoute envers quelqu'un d'autre, Seigneur. Des choses aussi banales que faire le ménage, faire de la comptabilité, puis t'offrir ça comme un service d'adoration, parce qu'on le fait pour ta gloire, Seigneur, parce qu'on le fait parce qu'on t'aime et parce qu'on aime notre prochain. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.